Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. La mort de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing. Il est décédé dans la nuit. Il avait 94 ans. La Russie a commencé sa vaccination anti-Covid de masse alors que la Grande-Bretagne approuve la commercialisation du premier vaccin en Europe. Et la saison des prix littéraires qui continue en France, le Goncourt des lycéens a été attribué à la Camerounaise Jali Amadou Amal. La nouvelle nous est apparue il y a tout juste un peu plus d'une heure, donc on débute ce journal avec le décès de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français à l'âge de 94 ans. Il avait des problèmes cardiaques et probablement des suites du Covid-19. En tout cas, les heures qui viennent nous le diront. Valéry Giscard d'Estaing était devenu à l'époque, à 47 ans, le plus jeune président de la 5e République. VGE, comme il avait été surnommé, était devenu président des Français, président français à la mort de Georges Pompidou. En 1974. Il restera le président qui aura lancé des projets tels que le TGV, par exemple, et la modernité, à l'époque, était sa marque de fabrique, Marine de la Moissonnière.
C'est en tout cas l'image qu'il voulait renvoyer, souriant, un drapeau bleu-blanc-rouge derrière lui. La photo officielle de Valéry Giscard d'Estaing n'a pas grand-chose à voir avec celle de ceux qui l'ont précédé. Elle donne le tempo d'une présidence moderne. On y verra le président dîner avec les Français et jouer de l'accordéon. Entre 1974 et 1976, les réformes sociétales s'enchaînent. Divorce par consentement mutuel, majorité à 18 ans et légalisation de l'avortement. Des lois qui marquent son unique mandat. La présidentielle de 81 arrive, Valéry Giscard d'Estaing part favori, mais une affaire va mettre à mal sa campagne, celle des diamants offerts par Bokassa, l'ex-président de la République centrafricaine. L'opposition en fait une arme pour le battre et le 10 mai 1981, Giscard cède son fauteuil à François Mitterrand. L'après-VGE commence avec un au revoir prononcé à la télévision, un au revoir qui n'est pas un adieu. L'ex-président tente un retour en politique en se faisant élire conseiller général puis député, mais ses grandes heures sont désormais derrière lui. Celui qui a dépoussiéré la 5e République prend finalement des airs de vieux sage. Dans les années 2000, VGE porte le projet d'une constitution européenne rejetée en 2005. Il est aussi derrière le passage du septennat au quinquennat. En 2014, 40 ans après son élection, 2/3 des Français estiment qu'il a été un bon président.
Et c'était Marine de la Moissonnière pour RFI. Britanniques qui prennent tout le monde de court en devenant le premier pays de l'Occident à autoriser un vaccin contre le coronavirus. Le vaccin américano-allemand de Pfizer et le Royaume-Uni qui en avait bien besoin car le pays avance le bilan le plus lourd simplement d'Europe avec près de 70 000 morts. Les premières doses seront disponibles très vite. On parle de la semaine prochaine et le vaccin ne sera pas obligatoire. L'Europe, quant à elle, se donne jusqu'à la fin de l'année pour une éventuelle autorisation. Et la Russie, quant à elle, a déjà commencé à vacciner sa population avant même la fin des essais cliniques. Daniel Vallaud, depuis Moscou.
Selon le président russe, plus de 2 millions de doses de vaccins ont été produites ou le seront dans les prochains jours. Vladimir Poutine demande donc aux autorités sanitaires russes de lancer sans plus attendre la vaccination à grande échelle de la population. Le vaccin Sputnik V, développé par le centre de recherche Gamaleya de Moscou, est actuellement dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques. Et ses concepteurs affirment qu'il est efficace à 95%. À la fin du mois de novembre, les autorités ont annoncé avoir commencé à vacciner les militaires russes. 80 000 devraient l'être d'ici à la fin de l'année. Les vaccins qui ne sont pas obligatoires seront gratuits pour les citoyens russes. Alors que la pandémie de coronavirus ne cesse de gagner du terrain en Russie, les autorités tablent plus que jamais sur ce vaccin pour l'endiguer et pour éviter un nouveau confinement. L'enjeu est également industriel. La Russie affirme que son vaccin pourrait être acheté par une quarantaine de pays et que plus d'1 milliard de doses ont été commandées par ses clients potentiels.
Et c'était Daniel Valo pour RFI. Qu'en est-il de l'Australie ? Eh bien, le régulateur des produits thérapeutiques dans le pays se dit optimiste, mais prudent quant à l'approbation d'un vaccin donc Covid-19, notamment, qu'on vient de le voir, au Royaume-Uni. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que le calendrier d'approbation réglementaire à la fin de janvier 2021 reste inchangé. Il s'attend toujours à ce que la première livraison de vaccins en Australie ait lieu à partir de mars 2021. John Skerritt, de la Therapeutic Goods Administration, affirme que des normes de sécurité strictes devront être respectées, mais le processus est déjà à un stade avancé. On écoute le médecin en chef adjoint britannique Jonathan Stafford Nguyen Van Tam, qui dit qu'il est important de réaliser que le coronavirus pourrait ne jamais être complètement éradiqué. On l'écoute.
Do I think there will come a big moment where we kind of, you know, have a massive party and throw on masks and hand sanitizer and say that's it, it's behind us, like the end of the war? No, I don't. I think those kind of habits that we've learnt from that clearly stop the spread of other respiratory viruses, such as flu, will perhaps persist for many years, and that may be a good thing if they do.
Voilà donc pour le vaccin sur le terrain donc du coronavirus. Une employée de l'hôtel d'un hôtel à Sydney a été testée positive au Covid-19, ce qui a incité les traceurs de contact à demander aux personnes qui auraient pu entrer en contact avec elle à se faire tester et à s'isoler pendant 14 jours. Jusqu'à aujourd'hui, donc le 3 décembre, l'État de Nouvelle-Galles du Sud avait enregistré 25 jours consécutifs sans aucune transmission locale du virus. Les résidents de la banlieue du sud-ouest donc de Minto et les utilisateurs des transports publics sont parmi les personnes les plus recherchées, en tout cas touchées par rapport à cette épidémie. La résidente de Minto avait voyagé dans le train puis le tram à côté de chez elle à la gare centrale, puis elle était allée sur les lieux de travail, le Novotel et l'hôtel Ibis à Darling Harbour entre le 27 et le 30 novembre. 5 membres de sa famille ont retourné des résultats négatifs. Le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazard, a déclaré à Nine Network qu'il était convaincu que les autorités avaient la situation sous contrôle et que l'assouplissement des restrictions qui avaient été récemment annoncées, donc à partir de lundi, ne seront pas affectées car l'infection n'est pas classée comme une transmission locale à ce stade. On l'écoute.
I can't say that I'm overly fussed about it. I think that it's just what we do with it's a worldwide pandemic. The issue, I suppose, people think that by shutting a border or doing something else might help, but in reality we are getting Australians coming back from some of the most virus-infested areas, you know, the United States and Europe and so on, and they're coming into our hotel quarantines. You have to expect there'll be more cases, and we will actually deal with it the way we've dealt with it on every other occasion.
Voilà donc pour le Nouvelle-Galles du Sud. L'Organisation panaméricaine de la santé demande aux dirigeants d'Amérique du Nord, du Sud et d'Amérique centrale ainsi que des Caraïbes d'améliorer l'accès aux services de santé et à l'information pour les minorités raciales. Cela survient au milieu d'une augmentation de plus de 30% des cas dans la région pour le mois de novembre. Les infections donc au mois de novembre ont augmenté de plus de 6 millions, passant à 26,9 millions de personnes infectées. Les États-Unis à eux seul enregistre plus de 150 000 nouveaux cas par jour. La directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé, la docteure Carissa Etienne, a déclaré que les minorités ont le plus souvent souffert pendant cette pandémie. On l'écoute.
The roots of many of these inequities are entangled in our region's long and complex colonial history, which is stained by social injustice and the enslavement of Africans. COVID-19 has shed a harsh light on this reality. And against the backdrop of urgent calls for racial equality in the United States, Brazil, and other countries in our region, we urge health authorities to face this pressing challenge.
13h10, direction le Liban maintenant. Le pays est aux prises de l'une des plus grosses crises économiques de son histoire et la destruction du port de Beyrouth, vous vous en doutez, n'a pas aidé tout cela. Le pays lance une levée de fonds appuyée par la France et l'ONU afin d'essayer de rétablir une partie de son économie, mais au jour le jour, la vie est de plus en plus dure. Reportage depuis le quartier de Quarantina, le quartier de la quarantaine à côté du port, quartier l'un des plus touchés par l'explosion. Reportage de Noël Pinédier.
Là, vous êtes dans la cuisine. Par la fenêtre, si vous regardez, vous pouvez voir le port où il y a eu l'explosion.
De l'appartement d'Ara Parsarian, il ne restait plus rien ou presque. Plus de fenêtres, plus de meubles, plus d'eau ni d'électricité. Après 4 mois de travaux, le chantier est loin d'être terminé.
C'est encore le foutoir. Nous essayons de reconstruire, mais à cause de l'explosion, nous découvrons toujours de nouveaux problèmes que nous n'avions pas vus. Par exemple, à cause des fissures dans les murs, maintenant, nous avons des fuites d'eau partout avec la pluie. On espère pouvoir revenir vivre ici avant le nouvel an. On verra bien.
Un chantier à plusieurs milliers de dollars que le jeune homme n'aurait pas pu entreprendre sans l'aide d'organisations internationales.
Ils sont en train de ravaler la façade, de réparer l'ascenseur. Rien que l'ascenseur, il y en a pour 9000 dollars. Nous n'aurions pas pu le faire nous-mêmes. Nous avons 3 personnes âgées dans l'immeuble. Si les ONG ne nous avaient pas aidés, nous n'aurions rien pu faire.
C'est l'ONG libanaise Offre Joie qui s'occupe de reconstruire le quartier. Mohamed Diab, volontaire, est sur les chantiers depuis le premier jour.
Des dons en nature, des matériaux pour les réparations, on a eu des vitres, on a eu des portes, des placoplâtres. Mais comme les dégâts sont énormes, il y a aussi un grand besoin des fonds. Parce que surtout avec la crise économique, tout le monde en a besoin.
Des fonds étrangers essentiels pour acheter les matériaux de construction, souvent facturés en dollars. Une devise auquel la plupart des Libanais n'a plus accès depuis la crise financière.
Et c'était un reportage de Noem Pignédé, donc pour RFI. Les Nations Unies qui lancent un défi aux dirigeants mondiaux de faire de l'année 2021 eh bien, l'année où l'humanité va mettre fin à sa guerre contre la nature, entre guillemets, et s'engager pour un avenir sans pollution par le carbone qui, on le sait, réchauffe la planète. Un nouveau rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale de l'ONU révèle que les 6 dernières années, donc de 2015 à 2020, devraient représenter les 6 années les plus chaude depuis le début des mesures modernes. Ça date de 1850. La publication du rapport intervient alors que les dirigeants mondiaux se préparent à assister à un sommet en ligne organisé par la Grande-Bretagne, la France et l'ONU. Ce sera le 12 décembre, 5e anniversaire des accords historiques de Paris sur le climat. C'était donc en 2015. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que le monde est au bord d'une catastrophe climatique. On l'écoute.
2020 is on track to be one of the 3 warmest years on record globally, even with the cooling effect of this year's La Niña. The recovery from the pandemic is an opportunity. We can see rays of hope in the form of a vaccine, but there is no vaccine for the planet. Nature needs a bailout. In overcoming the pandemic, we can also avert climate cataclysm and restore our planet.
Et c'est la saison des prix littéraires en France et c'est un prix qui est toujours très attendu dans l'univers littéraire français, le prix Goncourt des lycéens. Cette année, il a été attribué à la Camerounaise Djali Amadou Amal pour son livre « Les impatientes ». Sébastien Gédor.
D'abord un mot du titre, « Les impatientes ». En poulard, la patience se dit mounial et c'est une vertu. Mais ce mot-là, les 3 héroïnes du livre n'en peuvent plus de l'entendre parce que pour elles, c'est devenu un synonyme de soumission et de violence conjugale. Ramla, Safira et Hindou sont donc les impatientes de ce nouveau roman. Ramla n'a pas le droit de se marier avec son amoureux. Par intérêt, son père la jette dans les bras du mari de Safira. Hindou, la sœur de Ramla, de son côté, est offerte à son cousin qui la viole. Djaili Amadou Amal, elle-même, a été mariée à 17 ans, un mariage arrangé dont elle réussit à se défaire. Son deuxième mari est un homme violent qu'elle quitte également. L'écriture sera sa planche de salut. Même si Les Impatientes n'est pas un roman autobiographique, beaucoup de femmes au Sahel y trouveront un écho de leur propre vie. Le livre a d'abord été publié au Cameroun, où Djaili Amadou Amal a fondé l'association Femmes du Sahel pour l'éducation des filles. Les Impatientes avaient reçu le prix Orange du livre en Afrique l'année dernière, et c'est comme cela que l'éditrice française Emmanuelle Collat l'avait découvert. Avec cette récompense, Djaili Amadou Amal fait son entrée dans la cour des grands auteurs du continent africain.
Et 13h14, temps de faire un tour d'horizon au niveau de la météo en Australie. À Perth, il fera 29 degrés. Adélaïde, 27. Melbourne, 23. Hobart, 19. Canberra, 26. Sydney, 24. Brisbane, 29. Cairns, 32. Et Darwin, 35 degrés. On l'a vu dans ce journal, le retour des grands titres, la mort de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing. Il avait 94 ans. La Russie a commencé sa vaccination anti-Covid de masse alors que la Grande-Bretagne approuve la commercialisation du premier vaccin en Europe. Et la saison, on vient de le voir, des prix littéraires qui continuent. Le Goncourt des lycéens a été attribué à la Camerounaise Djali Amadou Amal.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.